Bonjour, le thème d'aujourd'hui, c'est le défi David Hume. Je commence par une citation du livre récent de Marianne Groulez, donc édité en 2005 au PUF, et je donne la présentation de l'éditeur. Expression la plus achevée du scepticisme moderne, le scepticisme modéré de Hume se donne pour un métascepticisme, sceptique envers la portée du scepticisme lui-même, car nul doute ne résiste durablement à la puissance vitale, indiscutable, de la croyance naturelle. Or, rarement le problème humain de l'extension du scepticisme aura été posé aussi fortement que dans les dialogues sur la religion naturelle, œuvre posthume, car si sulfureuse que Hume dut en ajourner les dialogues, dut en ajourner la publication, et sur laquelle on ne disposait à ce jour d'aucune étude en français. Qui est Philon, le sceptique, qui traquent dans leur dernier retranchement les prétendus fondements rationalistes de la foi religieuse, un sceptique excessif, un de ces pyrrhoniens dogmatiques à force d'entêtement dans le doute, un porte-parole du philosophe écossais auquel seule la bienséance ferme in extremis la bouche, un Hume à peine déguisé qui se contente d'appliquer à la croyance religieuse la suspension modérée du jugement qui est de mise en matière de croyances profanes. Mais il ne serait décidément guère conforme au doute modéré, au scepticisme authentique, de vouloir faire école et s'incarner dans un personnage en guerre frontale contre ses adversaires. C'est là, sans doute, le sens du dialogue, art tout humain de la conversation qui rend ces objets discutables. Une petite citation aussi de David Hume. De l'introduction au traité sur la nature humaine. Is easy for one of judgment and learning to perceive the weak foundation even of those systems which have obtained the greatest credit and have carried their pretensions highest to accurate and profound reasoning. Principles taken upon trust, consequences lamely deduced from them, want of coherence in the parts and of evidence in the whole, these are everywhere to be met with in the systems of the most eminent philosophers and seem to have drawn disgrace upon philosophy itself. Je traduis la citation. Il est facile pour toute personne ayant un bon jugement et de bonnes connaissances de percevoir la faiblesse du fondement des systèmes les plus acclamés et prétendant posséder le raisonnement le plus précis et le plus profond. Les principes auxquels on fait confiance, les conséquences boiteuses qu'on en déduit, le manque de cohérence dans leurs différentes parties et de preuves du tout se retrouvent partout dans les systèmes des philosophes les plus éminents et semblent avoir conduit au déshonneur de la philosophie. Fin de citation. C'est au milieu d'un bouillonnement intellectuel sûr de lui-même, dominant de plus en plus l'horizon intellectuel et marquant inlassablement l'esprit et les sciences positives que la pensée de Hume voit le jour, mûrit et se dresse contre ce qui pensait se construire en édifice inébranlable. Si j'ai voulu aborder Hume aujourd'hui, c'est parce que les questions, les défis qu'il a lancés ont permis à tout le XVIIIe siècle, aux Lumières donc, ou à l'Aufklärung et puis à l'Enlightenment anglais, dont nous sommes les héritiers, de repenser leur identité, leur méthode et ce qui était devenu un édifice presque intouchable, inébranlable, bâti sur la raison et affectant tous les aspects de la vie sociale et intellectuelle. Puis d'aller plus loin ou ailleurs. Ce qui s'était construit petit à petit avec Voltaire, le matérialisme de la métrie dans L'homme-machine, Maupertuis, D'Alembert, Diderot, Rousseau, Condillac avec le système de la nature, matérialiste aussi, Holbach, du côté britannique aussi, l'héritage bien sûr des idées et de leur formation de Locke, et puis la physique de Newton, puis Christian Huygens en Hollande. Et ainsi de suite, tout cela était entré dans une phase de consolidation définitive, l'instituant comme base d'un fondement en raison, pris pour acquis et pour assise de toute réflexion, que ce soit dans le matérialisme, le naturalisme l'empirisme anglais ou tout ce qu'on peut appeler, non sans généraliser, l'esprit du siècle. Nous ne pourrons pas, évidemment, tout reprendre chez Hume. Je voudrais aujourd'hui l'aborder d'un point de vue déterminant et qui retentit encore aujourd'hui, tout comme il affecta et réveilla la pensée de Kant, celui de son refus de la méthode des Lumières et du déisme anglais et français. Je donne d'abord quelques précisions sur la méthode empirique ou ce qu'on a fini par appeler le scepticisme plutôt de Hume. Pour Hume, toute connaissance doit provenir de l'expérience et non des actes indépendants de la raison. Connaître, c'est partir du monde qui est, c'est être déjà dans un environnement quel qu'il soit, ou qu'on veuille le décrire et en faire l'expérience directe. Alors seulement, il est possible de l'étudier vraiment, de rendre compte des lois qui le régissent et que la raison humaine ne pourrait connaître a priori. Lorsque nous percevons quelque chose, nous en gardons une impression sensible. Il s'agit d'une première donnée dont le sens précis nous échappe, mais qui est quand même là, impénétrable, première et don aux possibilités de connaissance. Certaines impressions reviennent plus souvent et ou bien sont plus intenses que d'autres. Avec le temps, ces données forment des associations entre elles. Un certain réseau se crée au niveau de l'esprit et des idées sont nées dont les liens détermineront les formes de nos connaissances et tout ce qu'on peut entendre par concept, notion, croyance, réalité, ainsi de suite. Les idées donc ne préexistent jamais à l'expérience. Elles ne sont pas déjà là dans la raison. Elles sont des représentations que nous créons suite à, et on peut dire grâce à, l'expérience. Elles permettent de reproduire, mais seulement en se les représentant, les impressions. C'est là la théorie de la mémoire, d'ailleurs, chez Hume, qui est aussi tout autant celle de l'anticipation, l'avenir étant donc basé sur ce que nous avons constitué relationnellement, à travers les idées issues des impressions représentées. Le scepticisme de Hume refuse toute nécessité causale, ce qui entrera bien sûr en compte dans toute sa critique de la raison et de la théologie. Plus précisément, toutes les relations cause-effet que nous prenons pour évidentes et acquises, ce qui était même le cas pour Newton, dans une certaine mesure, ne le sont point, et rien ne peut prouver, si nous nous maintenons au raisonnement empirique de Hume, qu'un effet spécifique doive découler nécessairement d'une cause spécifique. En fait, c'est toute la causalité et toute son histoire intellectuelle, depuis Aristote à la scolastique, à toute théorie de causalité de l'existence effective, quel que soit son fondement en raison, qui sont d'emblée rejetées. Pour Hume, si nous pensons que le lien cause-effet existe effectivement, c'est qu'il s'agit là d'une sorte d'instinct, qui n'est pas exactement quelque chose d'inné, mais qui conjugue habitude née de la perception d'événements se succédant, puis de relations existant ou se constituant au niveau du cerveau humain. L'existence, cependant, ou plutôt les conditions d'existence d'un tel instinct, ne peuvent être démontrées. C'est d'ailleurs en majeure partie ce problème qui incitera Kant à chercher et trouver la solution transcendantale. Notons qu'ici, évidemment, toute création du monde par un auteur comme prima causa, première cause, devient suspecte, voire impossible, une sorte de superstition. Notons aussi les conséquences de la pensée humaine sur la temporalité et sur le raisonnement, très répandues et formant la condition même des théories de Newton. Il s'agit de l'induction. Nous pensons, en observant le passé, en faisant appel donc à nos idées et nos impressions, que d'une manière logique, et donc nécessaire en ce sens-là, le futur sera comme le passé. Nous énonçons donc des lois universelles. Or, il n'y a aucune preuve d'un tel avenir. Un futur complètement différent du nôtre, voire un chaos, d'après nos propres définitions du chaos, reste possible. Encore une fois, Hume dit qu'il y a peut-être un instinct chez nous, créé à partir de l'habitude d'observer la succession d'événements et répondant à des idées et à des liens nerveux. Cet instinct nous permet de percevoir une certaine ressemblance du futur au passé. Tout cela nous emmène à la position exceptionnelle et toujours d'actualité de Hume en matière de religion, une position qui fait de lui un cas particulier dans les Lumières anglaises. et française. Les Lumières, au nom de l'universalité bien connue de l'être humain, ont cherché à retrouver une religion universelle, qu'on appelait alors la religion naturelle, et qui fut la base et le sens même du déisme. Or, pour la religion naturelle, il y a une nature humaine universelle, c'est-à-dire une identité qui se retrouve partout, dans toutes les sociétés, à tous les niveaux de l'existence et de la connaissance, que celle-ci soit intellectuelle, conceptuelle ou pratique. C'est cette connaissance et la nature humaine qu'elle détermine et qui la contient qu'il s'agirait de chercher et de retrouver en partant de principes universels qui seraient donc toujours déjà là avant toute spécificité socioculturelle. Le déisme s'est basé sur cette conception de la religion pour combattre tous les dogmatismes au nom de l'universalité de l'homme et le dogmatisme religieux au nom de l'universalité de la religion naturelle. Mais Hume pose alors la question : comment retrouver cette soi-disant nature humaine universelle ? Elle n'est pas empiriquement donnée. Elle constitue donc, tout au plus, une hypothèse spécifique du déisme. Et la prenant ainsi comme fondement de la religion naturelle, y croire, c'est, après tout, transformer une simple possibilité, une hypothèse, en dogme. En plus, l'expérience, et rappelant que c'est l'expérience qui reste première chez Hume et non la raison, ne nous offre pas du tout une telle nature humaine universelle, toujours égale à elle-même, partout. Mais bien l'inverse, on a affaire à un ensemble de sensations, d'instincts, de relations entre des idées. Elle n'a rien d'une nature toujours stable, immobile, et pouvant fournir la base d'une pensée universalisante de l'homme. Cette religion naturelle et la nature humaine, une, n'ont pas de contenu éthique, existentiel, relationnel, stable. Elles restent le produit de nos représentations et ne peuvent prétendre au non-changement. Les instituer comme base d'un nouveau religieux universel, c'est épouser sous une nouvelle forme le dogmatisme même que le déisme prétendait combattre. Pour expliquer enfin le fait religieux, Hume aura recours à la peur des hommes face aux dangers du monde. La religion n'est ni rationnelle ni éthique, elle émane de la peur face au monde, à la mort et à la puissance parfois incontrôlable et imprévisible des éléments naturels. C'est ce défi que soulèvera Kant en lui donnant une solution transcendantale. Voilà pour aujourd'hui. Je voudrais à la fin recommander certaines lectures. Bien sûr, il y a toujours l'enquête sur l'entendement humain de Hume. En particulier, pour compléter les commentaires d'aujourd'hui sur la religion et l'attaque du déisme, il serait intéressant aussi de considérer ce que Hume dit dans la section 10 de cette enquête sur les miracles. Il y a aussi, bien sûr, les dialogues sur la religion naturelle de Hume qui sont très intéressants. Et en ce qui concerne la question de l'induction dont j'ai parlé un petit peu ici et l'attaque de Hume contre l'induction, il y a les observations de Karl Popper qui sont très intéressantes, où il reconnaît en effet la grandeur de Hume quand il a retrouvé le problème de l'induction, tout en critiquant le fait que Hume n'ait pas vraiment trouvé de solution parce que son raisonnement aboutit à un irrationalisme. Et là, il faut lire les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance de Karl Popper chez Hermann en 1999. Il y a aussi l'excellent livre de 2005 que j'ai cité, assez récent, donc de Marianne Groulez, Le scepticisme de Hume, les dialogues sur la religion naturelle, qui reprend ces dialogues en détail. Ces dialogues sont très très intéressants. Il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas été publiés, ces posthumes, ils ont été publiés après la mort donc, de Hume, parce que lui-même n'a pas voulu les voir édités. Et ce, à cause des différents dangers que ça représentait pour lui. Il y a aussi le livre, pour ceux qui n'ont peut-être jamais lu Hume, qui constitue une très bonne introduction, qui est assez récent, qui est sorti l'année dernière. C'est le livre de Suzanne Sima, « Comprendre Hume », et c'est édité chez Armand Collin en 2007. Il y a aussi le livre du spécialiste de Hume, Michel Malherbe, « Qu'est-ce que la causalité ?» et c'est sur la relation entre Hume et Kant. Je vous dis au revoir et à la prochaine.